Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Bonjour à tous et bienvenue dans Enquête d'Esprit, l'actualité avec un regard spirituel. Quel avenir pour les chrétiens d'Orient? Cette noble cause de mobilisation se trouve cette année particulièrement menacée par une conjonction de crises. On peut citer la Terre Sainte et l'Arménie parmi les plus aiguës. Faut-il pour autant baisser les bras et se résigner à la fin des chrétiens dans ce berceau de la civilisation? Y a-t-il malgré tout des signes de renaissance et d'espoir, voire d'espérance face au mal qui se déchaîne? La Journée internationale des chrétiens d'Orient, qui se déroule aujourd'hui, est en tout cas l'occasion de célébrer le courage et la foi de ces résistants qui portent une lourde croix. Pour parler de tout cela, Véronique Jacquier, bonjour.
Bonjour Aymeric, bonjour à tous. Nos invités, Mgr Gollnisch, qui est le directeur de l'œuvre d'Orient, Mgr Nara, bras droit du patriarche latin de Jérusalem, et puis Loïs de Pampelonne, de l'ordre de Malte.
Voilà, et cette émission est désormais également sur Europe 1 à 13h et elle est en partenariat avec l'hebdomadaire France Catholique. Tout de suite, les informations religieuses de la semaine, Sandra Chiombo. Bonjour Sandra, et on commence par parler avec vous de la Pâque orthodoxe.
Bonjour Aymeric, bonjour à tous. 5 semaines après, les catholiques, les orthodoxes du monde entier fêtent aujourd'hui Pâques. C'est le point culminant de leur année liturgique. Le père Serge Sologoub, prêtre orthodoxe, nous explique le sens profond de cette fête pour sa communauté.
Les orthodoxes fêtent la résurrection du Christ, qui est la fête des fêtes, et qui est le point culminant de notre vie religieuse, et qui est vraiment la fête de Pâques. Ce n'est pas le rappel d'un événement historique, c'est nous accompagnons, tout au long de la semaine sainte, nous accompagnons le Christ vers sa passion, et nous sommes témoins de sa résurrection, et nous sommes appelés à le partager avec le monde entier. Et là, l'Église est illuminée, et pendant qu'on chante les chants de la résurrection, le prêtre encense l'Église, et en criant, en annonçant « le Christ est ressuscité », les fidèles répondent « en vérité, il est ressuscité », et on l'annonce en toutes les langues possibles pour que tout le monde puisse entendre cette bonne nouvelle. Nous sommes envoyés à la suite des apôtres pour envoyer cette bonne nouvelle, pour annoncer cette bonne nouvelle du Christ ressuscité et de la victoire de la vie sur la mort.
Le pape François visitait Venise le week-end dernier. C'est une première depuis le début de son pontificat. C'est aussi son premier déplacement en 2024. On le rappelle, le pape souffre de problèmes de santé. Le récit du voyage est signé Marie-Victoire Dieudonné.
8h du matin, le pape rencontre 80 femmes détenues et exhorte à plus de dignité dans les prisons.
Il est fondamental que le système pénitentiaire offre aux détenus des outils et des espaces de croissance humaine, spirituelle, culturelle et professionnelle, créant ainsi les conditions d'une réintégration saine. N'écartons pas la dignité.
Mais dans la matinée, 1500 jeunes vénitiens attendent aussi le souverain pontife. Une exhortation, oser la rencontre.
C'est la gratuité qui nous sort de la logique nihiliste du « je fais pour avoir » ou du « je travaille pour gagner ». Il faut le faire, mais le centre de notre vie doit être la gratuité.
Le pape François plaide lors de la messe pour la maison commune, préserver l'environnement, mais aussi préserver la paix dans le monde.
Que le Dieu de la paix éclaire les cœurs pour que grandisse en chacun la volonté de dialogue et de réconciliation.
La cité des Doges est profondément liée à la papauté, alors pour les Vénitiens, la journée est particulièrement importante.
Tous les peuples du monde se rendent au Vatican pour le rencontrer et nous l'avons ici, près de chez nous. C'est un honneur.
Le pape doit ensuite se rendre à Vérone en mai et à Trieste en juillet. L'occasion de rassurer sur sa capacité à assurer son ministère quelques semaines après des états de fatigue.
Fin de pèlerinage pour les évêques de la province de Reims. Dans leur diocèse, ils ont prié pour les vocations sur les routes. Beaucoup de fidèles se sont joints à eux. On écoute l'archevêque de Reims. Il nous explique pourquoi il est important de prier pour avoir de nouveaux prêtres.
C'est donner un signe un peu visible aussi qui peut attirer l'attention. L'idée, c'est de susciter un mouvement de demande des vocations, de demande des ouvriers pour la moisson dans tous nos diocèses. Parce que les prêtres sont d'abord des dons à recevoir. C'est Jésus qui les appelle et qui les donne. C'est le Seigneur ressuscité qui, qui en choisit quelques-uns et qui les donne pour être les serviteurs de son corps. Et donc, il faut aussi, d'une part, la demander, mais il faut désirer. Je crois qu'il est très important que chez les fidèles chrétiens, il y ait le désir d'avoir des prêtres pour pouvoir vivre de l'Eucharistie et du sacrement du pardon.
Une équipe de foot composée exclusivement de prêtres aujourd'hui affronte l'équipe mythique du Variété Club de France à Poissy. Les Clercs évoluent avec le maillot des Holy Games. C'est l'initiative catholique pour accompagner les Jeux Olympiques de Paris cet été. Pour Mgr Emmanuel Gobillard, le Christ a toute sa place sur un terrain de foot.
Alors, on peut rencontrer le Christ dans toute notre vie. Le Seigneur, en fait, il veut être présent à toute notre vie. La vie chrétienne, c'est pas que le dimanche matin à la messe. Et ma vie sportive, ma vie relationnelle, ma vie professionnelle, ma vie familiale, même ma vie de détente, doivent être sous le regard de Dieu. Sinon, ma vie, elle est morcelée. Ouais, tout lieu de vie est un terrain d'évangélisation. Le Christ est allé à Capharnaüm. Capharnaüm, c'était vraiment le carrefour des nations, le lieu où tout le monde se rencontrait, aussi bien tous les pays, toutes les activités. D'ailleurs, on appelle ça maintenant un Capharnaüm. Donc si le Christ est allé jusqu'à Capharnaüm, on peut bien aller jusqu'à un terrain de foot.
Et pour finir, le diocèse de Limoges fête aujourd'hui le 60e anniversaire du couronnement de Notre-Dame du Puy. La dévotion remonte au XIIIe siècle et en 1945, les habitants de la paroisse ont alors prié la Vierge pour obtenir la libération des prisonniers français.
Merci Sandra pour ces infos. L'actualité, c'est aussi la Journée internationale des chrétiens d'Orient qui a lieu aujourd'hui. On en parle dans Quête d'Esprit avec Mgr Rafik Nara. Bonjour Mgr, merci d'être avec nous. Vous êtes évêque à Nazareth et vous êtes aussi le bras droit, évêque auxiliaire du patriarcat latin de Jérusalem, qui représente donc les catholiques de rite latin dans cette région du monde. Vous êtes libanais, je le précise, vous êtes né en Égypte et vous avez été ordonné pour le diocèse de Paris. Et vous avez également beaucoup travaillé, c'est intéressant pour notre sujet, sur l'entente entre juifs et chrétiens en Israël. Avec nous également Mgr Pascal Gollnisch. Bonjour Mgr, merci d'être avec nous.
Bonjour.
Vous êtes le directeur de l'œuvre d'Orient qui depuis près de 170 ans aide les chrétiens d'Orient dans 23 pays. Au départ, une œuvre d'éducation qui soutenait les écoles chrétiennes. Et puis vous avez élargi au fur et à mesure votre champ d'action et vous organisez ce dimanche à Paris la Journée internationale des chrétiens d'Orient. Justement, une messe sera célébrée à 15h30 et sera retransmise sur notre antenne. Avec nous également Loïs de Pamplonne. Bonjour.
Bonjour Aymeric.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur de cabinet du président de l'Ordre de Malte, ancien chef de mission pour l'œuvre d'Orient en Irak pendant 2 ans. Vous avez donc une expérience de terrain dont vous nous ferez part. Et puis Véronique, bien sûr, vous nous parlerez de la première sainte arabe, sainte Mariam Bawardi, qui a été canonisée récemment. Et ce sera l'occasion aussi de s'interroger sur la dimension spirituelle du combat des chrétiens d'Orient pour leur survie. Alors justement, Mgr Gollnisch, première question pour vous. Il y a, semble-t-il, c'est l'analyse que vous faites, une conjonction de crises actuellement. Vous êtes à la tête de l'œuvre d'Orient depuis 13 ans, vous avez donc une vision globale. Il y a vraiment une dégradation très nette de la situation actuellement ?
Alors il y a des conflits majeurs en Ukraine, vous le savez bien. C'est en Arménie et au Karabakh. Ce sont deux dossiers différents, mais dans la même région, un peu dans la même problématique. Il y a le Liban qui a une crise multiforme. Nous ne savons plus comment aider le Liban à s'en sortir. Il y a la Syrie qui est toujours dans une guerre civile qui n'est pas terminée et avec des sanctions économiques des États-Unis et de l'Union européenne. Il y a l'Irak, dont l'État a été fragilisé par les interventions internationales, et donc il y a des milices qui sillonnent le pays et qui fragilisent les chrétiens. Il y a l'Éthiopie et l'Érythrée. On ne parle pas suffisamment de l'Érythrée. À l'Éthiopie, où il y a des guerres ethniques à répétition, et donc une famine terrible dans le nord de l'Éthiopie. Et puis maintenant, la Terre Sainte. Alors à chaque fois, ces crises touchent les chrétiens comme les autres citoyens. C'est-à-dire qu'un chrétien d'Irak, c'est un Irakien. Un chrétien de Syrie, c'est un Syrien. Un chrétien d'Égypte, c'est un Égyptien, etc. Donc ils vivent les crises, les douleurs, les souffrances de leurs concitoyens, de leur pays. Mais comme c'est une petite minorité, ils ont encore des difficultés supplémentaires. Donc c'est vrai que ces crises sont redoutables et entraînent des souffrances dont nous n'avons pas idée en France.
Mais ça vous inquiète particulièrement, justement, cette concomitance ?
Alors, cette concomitance, est très dure à regarder, parce que d'abord, ce sont des souffrances, on n'en reste pas indemne. Hein, on voit des familles effondrées, des maisons détruites, des vies détruites. Et donc, c'est dur à regarder. Et puis, pour aider, évidemment, s'il y a autant de terrains de crise, ça diminue les capacités que nous avons pour aider, même si nos donateurs sont extrêmement généreux, je tiens à le souligner. Mais il y a des signes d'espérance.
On va en parler, bien sûr.
On en parlera. Voilà, c'est pas du tout un regard sans avenir.
Misérabiliste. Hein,
parce que les chrétiens sont ceux qui parlent avec tous au Moyen-Orient. Ce sont des gens souvent plus formés que la moyenne. Ce sont des gens de paix. Et puis, ils détiennent ce qui me semble être les clés pour l'avancée des pays du Moyen-Orient. C'est-à-dire le respect de chaque personne, le respect de chaque citoyen. Vous savez, vous n'avez pas besoin d'être très nombreux. Si vous avez des idées justes, des idées vraies, eh bien, il y a un moment où elles portent. Autrement dit, nous, occidentaux, on regarde toujours le nombre, les statistiques, alors ils sont combien de divisions, etc., etc. Oui, combien de divisions, mais si ce que vous dites est juste, les divisions, elles finissent par craquer devant la vérité.
Alors justement, pardonnez-moi, on va donner quelques chiffres. Pour ce qui concerne bien sûr la Terre Sainte, hein, qui est au cœur des préoccupations mondiales aujourd'hui, les chrétiens de Terre Sainte sont en Israël 2% de la population, c'est-à-dire 185 000 personnes, c'était en 2022. 76% de ces personnes sont arabes. Et puis dans les territoires palestiniens, les chrétiens sont moins de 1%, environ 50 000. Monseigneur Nara, quelles conséquences de la guerre aujourd'hui entre Israël et le Hamas pour les chrétiens de Terre Sainte ?
Alors d'abord, j'ajoute simplement aux statistiques qui ont été données le fait qu'il y a en Israël des dizaines de milliers de migrants qui sont là des fois pendant des années. Des Philippins, des Indiens, des Érythréens et autres.
Et qui sont
beaucoup
chrétiens,
d'entre eux sont chrétiens. Et donc, le pourcentage est peut-être un peu plus élevé. Les conséquences de la guerre actuellement sur les chrétiens, moi je dirais la conséquence sur tout le pays. Hein, ce que venait de dire Mgr Gollnisch, les chrétiens font partie de la population locale. Hein, il y a des chrétiens palestiniens, il y a des chrétiens arabes israéliens, donc palestiniens en Israël, il y a des chrétiens d'expression hébraïque, et puis les migrants. Toute la population locale souffre une situation extrêmement difficile. C'est une situation que le pays n'a pas connue. Hein, depuis la fondation de l'État d'Israël en 1948, il y aura vraiment un avant 7 octobre, un après 7 octobre, par l'immensité du choc sur tous. Il y a le choc du point de vue matériel, quand on voit par exemple la situation de la bande de Gaza, la destruction massive, non seulement des bâtiments, mais même des infrastructures, avec le nombre d'années que cela demandera pour qu'il y ait une reconstruction avec l'effet psychologique sur les femmes, les enfants, les tous. Aussi en Israël, un choc psychologique énorme, hein, et le nombre de personnes déplacées.
Les otages également.
Tout cela a vraiment des conséquences sur tout le monde et aussi sur les chrétiens.
Véronique Jacquier.
Vous dites la foi les enracine encore plus sur leur terre ou vous craignez au contraire un exode de ces chrétiens ?
Je vais vous étonner. L'exode des chrétiens, en tout cas moi je connais davantage la situation en Galilée, en Israël, là où j'habite, n'est pas d'abord en raison de la guerre actuelle entre Gaza et Israël, mais en raison d'un problème endémique qui dure depuis des années et malheureusement il n'est pas traité. C'est le problème de la violence dans la société arabe, à l'intérieur de la société arabe, où il n'y a pas d'intervention du gouvernement pour protéger en réalité tout le monde, chrétien et musulman. Et donc toutes les familles, d'une certaine manière, qui veulent une vie paisible, en réalité sont tentées de partir, et les enfants sont tentés de partir à l'étranger, ce qui est vraiment difficile pour nous. Alors nous essayons d'aider nos jeunes de comprendre que notre présence comme chrétiens en Terre Sainte n'est pas simplement une fatalité, nous sommes nés là, nous sommes obligés de rester, mais que nous comme chrétiens nous avons un rôle. Mais vous savez, mais pour comprendre cela, il faut qu'il y ait une foi forte hein, pour comprendre ce rôle et cette mission que nous chrétiens avons dans cette terre où l'Église est née.
On va reparler, effectivement, c'est le cœur du sujet. Auparavant, Loïs de Pamplonne, est-ce qu'on peut dire que, d'une certaine manière, en Terre Sainte, les chrétiens sont pris un peu entre deux feux ?
Complètement. On le voit bien, à l'heure de Malte, on gère la maternité de la Sainte Famille à Bethléem. Et on voit très bien qu'un certain nombre de familles, un certain nombre de chrétiens de Cisjordanie se retrouvent totalement pris en étau par des personnes qui leur somment de prendre un choix, de prendre une décision, de se mobiliser dans un camp ou dans l'autre. Et l'idée, c'est vraiment qu'un certain nombre de chrétiens nous disent on veut choisir l'humanité. On ne veut pas choisir un camp. Oui, on est d'accord que le 7 octobre a été vraiment une catastrophe et les crimes qui ont été commis sont ignobles. Et en même temps, ce qui se passe à Gaza, forcément pour tout, exactement ce que disait Mgr Golnisch tout à l'heure, les chrétiens palestiniens sont des Palestiniens chrétiens et donc forcément se sont touchés par ce qui se passe à Gaza parce qu'il y a certaines communautés chrétiennes, mais c'est d'abord une vie commune qui partage et un sentiment d'appartenance. Et ça, c'est vrai qu'on sent qu'il y a quand même une prise en étau de ces communautés-là qui veulent s'en sortir et qui pourtant sont pris sous le feu de la violence de la société. Monseigneur parlait de la violence de la société arabe, mais également, on voit très bien aujourd'hui la violence d'un certain nombre de colons. Par exemple, nous, un certain nombre d'activités qu'on fait dans un certain nombre de villages en termes de cliniques mobiles pour apporter des soutiens à des familles défavorisées qui sont menacées aujourd'hui. Et on voit très bien que cette violence, elle s'empare de tout le monde et elle menace absolument tout le monde, même si les chrétiens essaient de porter justement cette voix qui crie dans le désert.
Monseigneur Golnisch, un mot peut-être sur les chrétiens en particulier de Gaza. Ils sont très peu nombreux aujourd'hui, 750, des catholiques, des orthodoxes. Il faut saluer leur courage admirable d'avoir déjà d'être resté au milieu de ce conflit.
Oui, mais je crois que ça va au-delà. Ce n'est pas simplement qu'ils restent, c'est qu'ils sont en mission. Autrement dit, il faut que ceux qui nous écoutent comprennent que les chrétiens ne sont pas dans une forteresse assiégée où ils partageraient entre eux les souffrances du temps. Ils sont en mission, comme doit l'être tout chrétien. Et donc, ils ont des écoles, ils ont des hôpitaux, Loïc vient de parler, ils ont des lieux d'accueil de vieillards, d'enfants handicapés mentaux, ils sont en mission. Et en effet, à Gaza, il y a 3 écoles catholiques, 99% des élèves sont musulmans, parce que c'est la démographie de la bande de Gaza, 0,9% orthodoxes et 0,1% catholiques. Mais vous voyez, c'est admirable ces écoles catholiques, puisqu'ils sont dans des conditions très difficiles, ils sont à Gaza. L'un des messages qu'on avait reçus, c'est qu'on leur demandait d'aller au sud, et les religieux disaient « mais le sud, personne ne nous connaît, on n'a pas où aller, donc on va peut-être mourir, mais au moins on mourra chez nous, on reste à Gaza ». Et alors évidemment, les écoles sont perturbées actuellement, mais le courage n'est pas simplement de rester, le courage c'est aussi de rester pour servir. Et ça, c'est extrêmement important. D'ailleurs, je crois savoir que le pape François essaie d'entrer en communication avec elle chaque soir, autant que faire se peut.
Véronique Jacquier.
Finalement, ils illustrent la phrase de l'Évangile, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde, c'est ça ?
Le levain dans la pâte. Ce qui est le levain, il est moins glorieux peut-être, la lumière, on la voit. Le levain, il est plus discret, mais il est tout aussi important. Et donc oui, l'importance des chrétiens d'Orient ne se calcule pas uniquement à leur nombre, mais à la vérité de leur attitude et de leurs paroles.
Justement, Monseigneur Nara, tout à l'heure, vous parliez de la violence et de la manière, finalement, d'y faire face. Est-ce que ce n'est pas la question essentielle, finalement, au-delà des questions politiques, hein ? Évidemment, on aurait du mal, on n'aurait pas le temps, en tout cas, de rentrer dans ces considérations. Mais est-ce que la question de fond, ce n'est pas, justement, de faire face, déjà spirituellement, à cette question de la violence et du mal qui, dans cette région du monde, est particulièrement aiguë ? Est-ce qu'on peut parler de pardon encore aujourd'hui ? C'est possible ?
La question de la violence, elle relève en même temps de la responsabilité des hommes politiques. Il y a des décisions politiques qui limitent la violence, mais aussi de la responsabilité des responsables religieux, car cela dépend des discours. Et il y a malheureusement certains endroits, ce n'est pas partout, il y a des discours fanatiques qui n'encouragent pas à la vie commune. Et c'est aussi la responsabilité des familles. Il y a un grand problème au niveau de l'éducation aujourd'hui, dans les écoles, dans les familles aussi. Et donc, je pense que c'est là que nous devons agir. En général, la violence, elle vient d'une jeunesse qui n'étudie pas, qui ne travaille pas. Voilà. Et les parents ont leur rôle à jouer.
Hein, mais il y a une très grande là-dessus, l'Église, les chrétiens ont un mot particulier ou des mots particuliers à apporter sur cette question ?
Eh bien, nous avons nos écoles. Nous, chrétiens, notre nombre n'est pas très élevé en Galilée, mais nous avons beaucoup d'écoles et nos écoles accueillent chrétiens et musulmans. Nous avons des écoles où il y a 90% de chrétiens et 10% de musulmans, mais ça peut aller jusqu'à l'autre opposé. Une école où il y a 80% de musulmans et 20% de chrétiens, mais en maintenant quand même un corps professoral qui garde un esprit chrétien, sinon ce n'est plus une école chrétienne. Mais nos écoles sont des écoles où véritablement les enfants apprennent à vivre ensemble, à se connaître. Cela prépare en fait la vie commune dans la société.
Alors, on va justement revenir dans quelques instants, dans quelques minutes, après un temps de publicité, sur justement ces espoirs, ces fragiles espoirs, mais aussi peut-être cette espérance, pour employer un terme chrétien, pour ces chrétiens d'Orient. Vous restez avec nous. De retour dans Enquête d'esprit sur CNews et Europe 1 à 13h, en partenariat avec l'hebdomadaire France Catholique. Nous parlons aujourd'hui de la Journée internationale des chrétiens d'Orient qui se déroule aujourd'hui. Une messe sera d'ailleurs célébrée à 15h30 et retransmise sur notre antenne. Nous sommes avec Mgr Pascal Gollnisch, il est directeur de l'œuvre d'Orient, avec Mgr Rafik Nara, il est évêque auxiliaire du Patriarcat latin de Jérusalem, et puis Loïs de Pamplonne, directeur de cabinet du président de l'Ordre de Malte, qui a aussi des actions l'Ordre de Malte en Terre Sainte, et qui nous parlera de son expérience en Irak également. Et puis Véronique Jacquet nous parlera de Sainte Mariam Bawardi, c'est la première sainte arabe canonisée récemment. Alors, Mgr Gollnisch, j'aimerais qu'on fasse un point sur l'Arménie, qui est un des autres points chauds, si je puis dire, actuellement concernant les chrétiens d'Orient. C'est une actualité, même si elle se déroule à bas bruit, qui est à bien des égards dramatique. Une église, l'église Saint-Jean-Baptiste de Chouchi, a été rasée le 26 avril dernier, donc c'était hier, par les troupes d'Azerbaïdjan. On va regarder tout de suite les conséquences de ce conflit, et puis je vous donne la parole, notamment les cohortes de réfugiés du Haut-Karabakh vers l'Arménie. Regardez, reportage de l'œuvre d'Orient avec Éloi Rochebrune.
Alina et sa famille vivent ici depuis septembre 2020, le début de la guerre au Haut-Karabakh. Ils se sont réfugiés dans le nord de l'Arménie pour leur sécurité. Ils ont fui l'enfer, comme en témoigne Alina, enceinte au moment des faits.
Nous étions en danger. Nous étions terrorisés par les drones qui volaient au-dessus de nous. Ma tension montait constamment. Nous sommes partis sans même avoir eu le temps de prendre un déjeuner.
Toute la famille a été accueillie dans l'appartement d'un proche. Une seule pièce pour Alina, son mari, sa belle-mère et ses quatre enfants.
Même s'il n'y a qu'une seule pièce, nous sommes heureux parce que nous avons un toit au-dessus de nos têtes.
La mère de famille a à cœur d'offrir un avenir serein à ses quatre enfants. Les trois filles sont accueillies dans un centre où elles reçoivent gratuitement des cours d'anglais et d'informatique. Elles rêvent d'une vie meilleure.
Je voudrais devenir avocate. Médecin. J'aimerais qu'aucun enfant ne connaisse la guerre comme nous l'avons vécue.
Les 100 000 Arméniens du Haut-Karabakh se sont réfugiés en Arménie depuis la conquête de l'armée azérie. Cette population, aujourd'hui déracinée, tente du mieux qu'elle peut de se reconstruire.
Voilà, alors justement, la question de la reconstruction est extrêmement importante. Mgr Gollnisch, vous avez parlé au sujet de l'Arménie et de ce qui se passe au Haut-Karabakh, de négationnisme historique qui s'exerce donc, on le voit, à la fois sur les églises, bien sûr, mais aussi sur les personnes. Alors, que peut faire la communauté internationale face à ce qui est en train de se passer? On a l'impression d'une inaction et d'une inertie à l'égard notamment de ces chrétiens.
C'est le génocide de 1915, c'est l'esprit du génocide de 1915 qui se perpétue. Il y a donc deux questions différentes. Le Haut-Karabakh. Le Haut-Karabakh est une région qui se trouve, en raison des aléas de l'histoire, dans l'Azerbaïdjan, mais qui était arménienne, qui est arménienne depuis plus de 2500 ans.
De l'Arménie.
Plus de 2500 ans. Voilà. Ces gens ont été chassés en une journée de chez eux. Vous voyez ces images que vous avez très bien fait de montrer, de femmes avec des enfants qui ne savent plus où est leur vie. Nous en avons assez de voir ces images-là. C'est insupportable. C'est les mêmes qu'on trouve en Ukraine, qu'on trouve en Éthiopie, qu'on a trouvé en Irak, après Daesh, etc. C'est insupportable. Alors les gens ont dit que j'exagérais en parlant du génocide de 1915. Les gens ont été chassés en une journée de chez eux, exactement comme les Arméniens ont été chassés de Turquie en 1915. La rue principale de la capitale de la région arménienne, Stepanakert, a été rebaptisée. Toutes les rues sont rebaptisées de noms turcs. Et la rue principale a été baptisée rue Enver Pacha. Qui est Enver Pacha? L'un des trois organisateurs du génocide de 1915. Vous vous rendez compte cette c'est espèce de d'outrance des autorités d'Azerbaïdjan d'oser faire cela. C'est un peu comme si à Berlin, on mettait une rue Adolf Hitler. Excusez-moi, mais il faut quand même dire ce que c'est pour les Arméniens d'avoir une rue Enver Pacha dans cette ville arménienne. 120 000 qui ont été chassés, et je regrette les silences, y compris peut-être d'ailleurs parfois dans ma propre église, sur ces 120 000 Arméniens qui ont été chassés du Haut-Karabakh. Alors il y a un autre problème, c'est la République d'Arménie. Le Haut-Karabakh ne se trouve pas dans la République d'Arménie, se trouve dans l'Azerbaïdjan. La République d'Arménie elle-même est menacée parce qu'on prétend que les frontières sont floues et la Turquie va avoir un accès direct avec l'Azerbaïdjan, ce qu'elle n'a pas actuellement. Et donc veut empiéter sur la République d'Arménie pour avoir ce couloir. Donc ça suffit. Les Arméniens ont le droit, ils ont tellement souffert, ils ont le droit de vivre en paix. Parce qu'avant le génocide de 1915, il y a eu des massacres. Ce qu'on appelle les massacres arméniens, ce n'est pas des petits massacres. 200 000 Arméniens avaient déjà été exécutés. Alors, à force de garder le silence sur ces réalités, à force de ne pas les dénoncer, à force de ne pas agir, eh bien, on les prolonge, on les multiplie. Alors, la communauté internationale, d'abord, il y a eu une défaillance des Russes, il faut bien le reconnaître, qui devaient garder les Arméniens du Haut-Karabakh, qui n'ont pas du tout été actifs, sûrement pour des raisons de politique internationale que ceux qui nous écoutent peuvent deviner. Et ensuite, c'est pas la France qui va envoyer la Légion étrangère en Azerbaïdjan. Donc il faut des sanctions. Mais alors, vous savez, quand on voit que la prochaine COP doit se trouver en Azerbaïdjan, le palais de la corruption et des énergies fossiles, écoutez, il y a un moment où c'est trop. C'est trop. La COP ne peut pas se tenir en Azerbaïdjan. C'est une insulte. C'est une insulte aux Arméniens, c'est une insulte à tous ceux qui s'intéressent à l'environnement. C'est pas possible. C'est pas possible de faire des choses comme ça, quand même. La COP en Azerbaïdjan, vous vous rendez compte ? C'est pas possible.
C'est-à-dire que c'est le pétrole qui gouverne, finalement, la politique internationale, si je vous résume.
En l'occurrence, oui.
Et comment réagissent les chrétiens dans ce contexte ? Après les échos,
je peux vous dire
que
les chrétiens, en ce moment, les Arméniens, le 24 avril dernier, c'était la commémoration du génocide. Le Premier ministre français, d'ailleurs, était là à la commémoration, avec différents responsables politiques, la maire de Paris, la présidente de la région Île-de-France. Donc tout le monde était là. Ce qui est intéressant, quand même, sur la question des Arméniens en général, des Arméniens en particulier, et des chrétiens d'Orient en général, c'est que tout parti confondu, se sentent concernés par cette cause des chrétiens d'Orient. Et le 24 avril, tous les partis sont allés à Erevan pour la commémoration du génocide. Après ça, que faire ? La France ne va pas, elle toute seule, envoyer, la Légion étrangère en Arménie. Il faut des sanctions, il faut des pressions. Mais les Arméniens doivent pouvoir retourner chez eux au Haut-Karabakh. La question du Haut-Karabakh ne peut pas être réglée en une matinée.
Oui, mais vous qui connaissez bien ce dossier, si j'ose dire, ça ne se résume pas à un dossier, sanctions, pression, mais est-ce qu'il ne faut pas aussi une action, même symbolique, pour dire ça suffit ?
Il ne faudrait déjà pas y faire de COP, ce serait quand même minimum. Parce que c'est une ratification du comportement des autorités, si vous voulez. Ce n'est pas possible. Voilà. Après ça, moi je ne suis pas expert politique, je ne sais pas quelles actions nous pouvons mener. Mais de fait, il ne faut pas que tu sois dans la perspective en une matinée, c'est terminé, le problème du Haut-Karabakh est réglé. Non, il n'est pas réglé. Les Arméniens reviendront un jour sur cette terre. Peut-être que je ne le verrai pas de mon vivant, mais on ne peut pas accepter qu'une terre où il y a des églises, il y a des croix, etc., soit comme ça, tout d'un coup, rayé de la carte. Ce n'est pas possible.
Alors, je vous propose à présent de nous rendre en Irak. On passe évidemment d'un terrain à l'autre, mais c'est aussi l'occasion de faire un point global et puis de voir comment est-ce que ces chrétiens d'Orient, de manière générale, peuvent réagir. Quels sont aussi les signes d'espoir ? C'est un reportage sur le monastère de Mar Thomas, c'est Saint Thomas, en Irak, une église orthodoxe qui date du 7e siècle, qui a été saccagée par l'État islamique, qui avait voulu faire disparaître toute trace de présence chrétienne dans la région. Regardez ce reportage signé de l'œuvre d'Orient et avec le commentaire d'Éloi Rochebrune.
C'est un lieu emblématique de la ville de Mossoul. L'église syriaque Mar Thomas porte encore les stigmates de l'État islamique. Luc Bourreau, qui accompagne la restauration de l'église construite au 7e siècle, constate les dégâts sur ces artefacts qui seront bientôt restaurés.
Donc on peut voir tous les dommages causés par l'État islamique, c'est exemplaire. Donc malgré cela, avec tout cet ensemble, toutes ces pièces de puzzle, on a des restaurateurs français qui vont venir former des Irakiens pour reconstituer au mieux les hôtels. Tout ça va être remis en place, restauré autant que nécessaire pour avoir de nouveau l'église vivante.
À l'intérieur, l'édifice comporte 5 nefs. Les traces du passage de Lehi sont encore bien présentes. Sur cette porte, on trouve les 12 apôtres. Chaque tête a été abîmée. Un patrimoine et une mémoire que veut transmettre Luc Bourreau aux futures générations d'Irakiens. C'est le sens profond de ce chantier.
On souhaite faire une restauration qui permette de passer cette église aux générations futures. Il ne s'agit pas de faire une restauration rapide et qui serait remise en cause 10 ou 15 ans après. Là, ce qu'on va faire va assurer une stabilité dans le temps infini, dans le temps long.
Restaurer cette église est aussi important pour perpétuer la présence chrétienne à Mossoul. En 2003, le pays comptait 1,5 million de chrétiens. Aujourd'hui, ils sont moins de 200 000.
Loïs de Pamplonne, une première réaction parce que vous avez vécu en Irak et c'est vrai qu'à travers ce reportage, c'est assez beau de voir que finalement, on anticipe une reconstruction, une restauration durable du christianisme dans cette région. Mais ça veut dire aussi qu'il faut concrètement aider à rester les chrétiens, les familles par du micro-développement.
Alors, d'abord, c'est beaucoup d'émotion parce que ce projet-là, j'avais pu le porter quand j'étais justement à l'œuvre d'Orient en Irak. Donc de voir que voilà, cette église que j'ai pu voir totalement taguée et trois quarts détruite, aujourd'hui, les travaux ont commencé et avancent bien. Donc c'est d'abord, on parlait de signe d'espérance, ça en est un. Et d'ailleurs, pour faire le lien avec ce que disait Mgr Golnisch tout à l'heure sur l'Arménie, on voit très bien qu'il y a la même volonté de détruire le patrimoine, de détruire l'histoire. C'est aussi une manière d'essayer d'éradiquer le patrimoine et l'histoire, en fait, et de recréer un monde un peu nouveau. Et donc, ce qui n'a pas réussi Daesh, comme le dit Monseigneur, je suis persuadé que les Arméniens arriveront à revenir et puis à rester sur leur terre et garder leur histoire. Sur l'Irak, il y a vraiment cette question de patrimoine qui est extrêmement importante parce qu'elle permet de garder un petit peu l'histoire, enfin de garder l'histoire, d'expliquer aux autres communautés quelle était la richesse des chrétiens d'Orient, la richesse des différentes églises. Là, on voit Martouma des Syriacs orthodoxes, mais juste à côté, on a celle des Syriacs catholiques. Il y a les églises chaldéennes aussi qui sont en train d'être construites. Donc voilà, ça, cette dimension-là est extrêmement importante. Après, elle ne fait pas tout, parce que réparer les pierres, c'est bien, mais réparer les hommes, c'est mieux. Donc il y a aussi toute cette activité qui est mise en place par un certain nombre d'associations pour essayer d'aider les familles, d'aider les familles à rester. Pour ça, il leur faut donner un avenir. Vous avez très bien dit, on a ce sujet du développement économique. Beaucoup de jeunes considèrent qu'il n'y a pas d'avenir. C'est-à-dire qu'on a vu beaucoup de migrants du Kurdistan irakien, qui n'est pas une zone totalement démunie en termes d'activité économique, mais ils n'ont pas forcément d'espoir pour trouver un travail. Et donc ça, c'est vraiment important d'essayer qu'ils puissent avoir un avenir sur ce côté-là. Et au-delà de cet avenir économique-là, c'est quelle espérance, quel avenir. Parce que on peut voir trois crises, hein, dans ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a vraiment la crise existentielle du nombre, là, ce qu'on a pu dire au début. Il y a aussi la crise de la représentation politique et ecclésiale. Cette difficulté qu'on a pu voir en Irak sur un certain nombre d'acteurs politiques qui essayaient de se devenir un petit peu les porte-drapeaux de la communauté chrétienne. Et en même temps, la difficulté ecclésiale de certains hommes religieux qui ont toujours joué le rôle un peu de chef de tribu, de chef de clan, et qui aujourd'hui sont un peu mis à mal parce qu'il y a le fait de la diminution du nombre de personnes de leur communauté, ce n'est plus possible. Et voilà, cette crise interne, on voit cette diaspora qui est énorme, beaucoup plus importante que les personnes qui vivent encore dans ces pays-là, qui peuvent créer des tensions assez fortes avec une vision extérieure qui va essayer d'imposer un petit peu la vie aux gens qui vivent sur place. Donc, tout ça mis un peu mis bout à bout pour dire qu'on a vraiment une situation qui est complexe, mais ce qui est impressionnant, c'est cette foi, cette jeunesse qui veut rester, qui souhaite rester et qui s'engage au quotidien, aussi bien dans les activités des activités de jeunes Irakiens qui vont ramasser des ordures dehors pour rendre leur forêt belle en lien avec des Kurdes, en lien avec des Irakiens musulmans ou autres. Et ça, c'est une vraie, il y a des vraies sources d'espérance dans ce pays.
Alors justement, vous avez parlé de la jeunesse. J'aimerais vous entendre aussi, Monseigneur Nara. Est-ce que cette jeunesse est aussi un espoir dans la Terre Sainte où vous vivez, même si elle est moins nombreuse aujourd'hui, néanmoins, la jeunesse chrétienne, est-ce que c'est l'avenir aussi de cette terre?
Je continue d'abord dans la lignée de ce qui a été dit avant. Je pense qu'il y a, la Terre Sainte a sa difficulté, qu'elle est précieuse et sainte et très importante, aussi bien pour les Juifs qui y ont toutes leurs sources, que pour les chrétiens, puisque le christianisme est né là-bas. L'islam, c'est la mosquée de l'Aqsa, c'est le troisième lieu saint de l'islam. Comment vivre ensemble et se reconnaître? Pas s'exclure les uns les autres. Comment vivre ensemble et se reconnaître? Reconnaître la souffrance de l'autre et vouloir donner la possibilité à chacun de vivre dignement, en sécurité et de se développer. Voilà. Donc, alors le problème des jeunes, c'est un peu là. Si vous voulez, y a-t-il une perspective pour l'avenir? Vous savez, moi, à mon âge, je peux dire, je vais terminer ma vie encore quelques années et puis ce sera terminé. Un jeune a toute la vie devant lui. Quel avenir est-ce qu'on donne pour un jeune qui grandit aujourd'hui en Terre Sainte? Vous voyez, pour un jeune chrétien d'abord, parce que nous sommes peu nombreux, et puis les chrétiens, en fait, aiment bien vivre. On a des diplômes, on a envie de réussir, de fonder une famille, de vivre en paix. Voilà, donc comment créer ces conditions-là?
Est-ce que vous dites, par exemple, que cette jeunesse-là, qui reçoit quand même, malgré tout, une certaine éducation, détient les clés de l'avenir et du développement?
Détient les clés, je veux être modeste, parce qu'on est si peu nombreux de dire qu'on détient les clés de l'avenir.
On va cesser de parler des minorités créatives.
Un peu grand, mais disons que nous avons un rôle à jouer. Nous avons un rôle à jouer. Il y a une telle polarisation dans la société israélienne et palestinienne qu'en réalité, il faut changer le discours. Nous, chrétiens, nous essayons d'avoir un discours proche de chacun. Le peuple israélien souffre beaucoup depuis le 7 octobre, avec le problème des otages et autres. La population palestinienne a enfin le droit à l'autodétermination, à vivre dignement. Alors nous, chrétiens, on essaie d'avoir une parole. Les chrétiens qui travaillent dans la société, aussi bien palestinienne qu'israélienne, ce sont des personnes qui ont envie de construire la société, d'arriver vers une vie commune, paisible. De ce point de vue-là, même si notre nombre est petit, chaque graine qui est semée est importante en soi et peut porter un fruit à long terme.
Véronique Jacquier.
Là, on est dans le constat, mais y a-t-il une volonté politique, que ce soit en Terre Sainte, que ce soit au Liban, que ce soit en Irak, pour construire justement une génération, une élite éclairée? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait de cette jeunesse? Est-ce qu'on lui donne un cap? Est-ce qu'on lui donne une vision? Est-ce qu'elle est soutenue? Est-ce que vous avez des exemples concrets, chacun?
Peut-être Mgr Gollnisch, pour commencer.
Oui. D'abord, vous posez une très bonne question. Hein. Il faut que la jeunesse soit formée, parce que c'est du travail. On ne s'improvise pas comme ça, messager dans la société. Etc. Il faut travailler. Et je pense que, de fait, c'est une priorité, me semble-t-il, pour les églises, de former les jeunes adultes sur les deux grands principes du christianisme, que le christianisme a d'ailleurs finalement légué aux sociétés laïques européennes, occidentales aujourd'hui, qui vivent de cela sans en être toujours très conscientes, qu'elle le doit au christianisme, qui est le souci du bien commun, qui dépasse simplement les quêtes individualistes, et le respect de toute personne. Et ça, ce sont deux principes clés. Vous parliez de clés de l'avenir. C'est en tenant à cela, autrement dit, pas une défense confessionnelle. Vous voyez, le cardinal Sacco en Irak, il ne se bat pas pour défendre les chrétiens d'Irak. Il se bat pour le peuple irakien, pour la citoyenneté en Irak. Donc, le bien commun et la défense de la personne, qui sont au cœur des principes chrétiens. Et c'est autour de ces grands principes que les sociétés du Moyen-Orient pourront évoluer, car les sociétés du Moyen-Orient doivent pouvoir avancer. Il n'y a pas de raison qu'elles restent sur le côté de la route. Elles avanceront s'ils dévoient ces lèvres. Il y a les chrétiens, mais il n'y a pas que les chrétiens. Mais les chrétiens ont une voix importante pour dire ce qui doit primer, c'est le bien commun et le respect de toute personne. C'est là-dessus que le Moyen-Orient pourra avancer.
Alors, pour les quelques minutes qui nous restent, j'aimerais qu'on se déplace, si vous permettez, au plan spirituel, avec notamment ce bel exemple, Véronique, dont vous allez nous parler, de sainte Mariam Bawardi, qui est la première sainte arabe, en tout cas des temps modernes. Et quelle fécondité spirituelle peut-elle avoir aujourd'hui pour les chrétiens d'Orient ?
Alors, elle a été canonisée en 2015. Elle n'est pas très connue. Elle a eu quand même une vie absolument extraordinaire, Mariam Bawardi. Elle est née dans un petit village à une vingtaine de kilomètres au nord de Nazareth, donc en Haute-Galilée. Elle est orpheline à 3 ans. Son oncle veut la marier de force à 12 ans. Elle est égorgée par un musulman. Elle s'en remet mystérieusement. On ne va pas rentrer dans le détail parce que je vous l'ai dit, il y a beaucoup de dimensions mystiques. Bref, elle arrive en France, elle entre au Carmel de Pau et elle reviendra sur sa terre natale pour créer le Carmel de Bethléem et lancer le chantier du Carmel de Nazareth. Elle meurt à 32 ans après s'être gravement blessée sur le chantier du Carmel de Bethléem. Elle savait qu'elle allait mourir et s'en réjouissait d'ailleurs, tant elle vivait en Dieu et avec Dieu en compagnie du Christ. Alors, alors, elle a donc vécu de très grandes épreuves. C'est pour ça que sa spiritualité et sa fécondité est très importante, parce que ce qui fonde sa spiritualité, c'est sa grande humilité. C'est un personnage, là encore, hors norme, parce qu'elle avait des dimensions spirituelles hors norme, tout en étant incroyablement humble. Je suis ignorante, dit-elle dans l'une de ses lettres, je ne demande ni d'autre science ni d'autre sagesse que la science de trouver Jésus et la sagesse de le conserver. Elle incarne en fait, comme sainte Thérèse de Lisieux, c'est un peu une petite sainte Thérèse de Lisieux arabe, un esprit d'enfance avec un esprit d'abandon. Elle estime que Dieu pourvoit tout, ce n'est pas une intellectuelle. L'une de ses paroles préférées, c'est « Allons réveiller l'univers, tout le monde dort, et Dieu est si rempli de bonté, si grand, si digne de louange, on l'oublie. » Enfin, elle prône sans cesse l'amour du prochain, et ça, sur la terre sainte dont on parle et sur tous les conflits que nous venons d'évoquer, c'est évidemment la pierre d'angle de sa spiritualité, de sa fécondité. Si vous pensez à faire du bien à votre frère, Dieu pensera à vous. Si vous creusez un trou pour votre frère, vous y tomberez, il sera pour vous. Mais si vous faites un ciel pour votre frère, il sera pour vous. Donc la fécondité de Mariam Bawardi, c'est tout spécialement pour la Terre Sainte, mais pas que, c'est de mettre toute sa confiance en Dieu malgré les épreuves, malgré les difficultés de la vie, et surtout de devenir des ouvriers de paix, ce que vous trois, vous avez évidemment évoqué.
Alors, merci beaucoup Véronique. Une réaction de nos invités, à commencer par vous Loïse de Pamplonne. Est-ce que finalement, au bout du bout, ce qui manque le plus aujourd'hui tous ces pays dont on vient de parler, où sont présents des chrétiens d'Orient, c'est la sainteté, et c'est ça qui permettra de donner aussi une issue vers le haut, par le haut?
Il ne faut pas oublier situation. Les chrétiens d'Orient, c'est des chrétiens orientaux, et ils ont besoin de sainteté autant que nous, chrétiens d'Occident, avons besoin de sainteté. On peut pas, faut pas exiger des choses à nos frères. On a aussi notre lot, je disais, entendez monseigneur tout à l'heure, on a aussi notre lot, nous, Occident, à apporter et à éclore un nombre de saints importants. Et je pense que pour la sainteté, il n'y a rien de mieux que d'aller sur les lieux du Christ. Et je pense que monseigneur a évoqué rapidement le sujet des pèlerinages. Et je pense qu'il y a une vraie dimension aussi à dire aux chrétiens de revenir sur le lieu du Christ, quitter leur zone de confort, aller sur place. Pas oublier que l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem a été créé justement pour accueillir les pèlerins à Jérusalem. Et je pense que c'est aussi un beau signe d'espoir et d'espérance pour les familles en Terre Sainte de dire, voilà, revenez et allez prier sur les lieux saints.
Monseigneur Gollnisch, c'est la Pâque orthodoxe aujourd'hui, c'est le passage de la vie, de la mort à la vie. Finalement, les chrétiens, bon, ils sont peut-être pas encore morts, mais enfin, il y a quand même beaucoup de diminution de vitalité, ces chrétiens d'Orient.
Non, pas de vitalité, excusez-moi. Là, je signe pas. Il n'y a pas de diminution de vitalité. Ils sont engagés comme vous n'avez pas idée. Regardez, j'étais il y a quelques jours avec les évêques de France en Égypte. Ils ont vu une église en mission, pas une église recroquevillée. Et il y en a beaucoup plus qui restent que ceux qui partent. Il y en a même, si on regarde la région, vous savez que combien il y a de catholiques à Dubaï ? 1 million. Qui sont arrivés ces dernières années. 1 million de catholiques. Si vous regardez toute la région avec les pays du Golfe, il y a plus de chrétiens qui rentrent que de chrétiens qui sortent. Donc non, ils ont de la vitalité, ils ont une avenir, ils ont une espérance. Mais je rejoins votre sujet sur la sainteté, et puisqu'on conclut, c'est important de ne pas confondre la sainteté et le fanatisme. Et parfois, on le confond, et parfois les jeunes confondent, s'imaginent qu'ils sont saints parce qu'ils vont être dans un extrémisme. La sainteté, c'est aussi être capable de poser des nuances, de regarder la complexité des questions et de pour un chrétien, de mettre ses pas dans Jésus-Christ. Ce n'est pas forcément le fanatisme. Ce n'est pas la même chose. Et trop souvent, on confond les deux. La sainteté, ce n'est pas le fanatisme. Et La prière est sans doute le meilleur moyen pour éviter de confondre les deux. Et puisqu'aujourd'hui, on est invité à prier avec les chrétiens d'Orient, je signale à tous que les chrétiens d'Orient aussi, aujourd'hui, prient pour la France. Et donc, on est en train de traverser la Méditerranée par des relations de prière. La Méditerranée est devenue un lieu de souffrance, on y meurt, on s'y noie, il y a des tensions, il y a des guerres, mais c'est donc important que nous fassions ces ponts spirituels à travers la Méditerranée.
Et ce, d'autant plus qu'on voit que la situation, notamment celle de la Terre Sainte, se reproduit sous nos yeux en France, devant Sciences Po, par exemple, pour ne prendre que cet exemple-là. Monseigneur Nara, qu'est-ce que vous dites, justement, sur cette question de la sainteté, mais aussi, effectivement, aux chrétiens d'Occident, s'agissant du soutien apporté aux chrétiens d'Orient?
Alors, j'ajoute simplement à Sœur Sainte Marie Mbawar, dit Sainte Marie-Alphonsine Ratas, pour que les Sœurs du Rosaire ne se fâchent pas. Elles ont été canonisées ensemble, c'est oui. La fondatrice du...
Il y en avait une deuxième, effectivement.
Voilà, il y a beaucoup de saints, quand même, au Liban aussi, en Terre Sainte, qui ont été canonisés ces dernières années. Le Moyen-Orient, mais la Terre Sainte, est une terre de sainteté. La sainteté, au sens chrétien, la sainteté dans l'incarnation, dans la vie simple. Je vis à Nazareth, c'est le lieu où Jésus a grandi avec Marie et Joseph, une vie extrêmement simple. Il a grandi 30 ans, ensuite il disait, mais enfin, le fils du charpentier, il n'arrivait pas à croire qu'ils avaient le fils de Dieu au milieu d'eux. Voilà, et je pense que la sainteté au Moyen-Orient se vit dans cette simplicité. Les chrétiens d'Occident, venez nous visiter, venez faire un pèlerinage en Terre Sainte.
Mais c'est possible, très concrètement parlant, parce que...
C'est possible, les pèlerinages reprennent en petit nombre. Ce ne sont pas des groupes immenses comme dans les périodes de paix, mais il y a des petits groupes qui viennent. Cela d'abord soutient moralement et matériellement nos chrétiens qui travaillent un peu pour les pèlerinages, aussi dans des restaurants, des lieux pour accueillir les pèlerins. Ça les encouragera à rester. Et puis aussi, prier pour nous et nous prions les uns pour les autres. Je pense que nous, comme chrétiens d'Orient, c'est très important pour nous aussi de sentir cette communion avec les chrétiens dans le monde entier, avec l'Église universelle. Hein, c'est la vocation de Jérusalem est une vocation d'universalité. Elle est pour tous. Elle n'est pas juive, elle n'est pas musulmane, elle n'est pas chrétienne. Jérusalem, elle est sainte pour tous. Voilà. Et donc, c'est un lieu où tous les pèlerins affluent.
Ce sera le mot de la fin.
Faut-il dire de cette sainteté.
Merci, merci beaucoup.
Joyeuse Pâques aux orthodoxes.
Joyeuse Pâques, absolument. Et je renvoie aussi à suivre en direct sur CNews à 15h30 depuis l'église Saint-Sulpice. Ce sera la messe annuelle de l'œuvre d'Orient à l'occasion de la Journée internationale des chrétiens d'Orient. Et puis un autre rendez-vous, ce sera la messe de l'Ascension, cette fois jeudi prochain à 11h depuis l'église Saint-Roch, à suivre sur C8. Véronique Jacquier, en deux secondes, pardonnez-moi, sur France Catholique, que faut-il lire cette semaine?
Un beau dossier consacré à Padre Pio, Saint Padre Pio, à l'occasion de la sortie de photos inédites que vous pouvez découvrir dans l'hebdomadaire.
Donc, voilà, nous en parlerons également, bien sûr, évidemment, dans une prochaine émission.
Sur abonnement et sur france-catholique.fr.
Merci à Aurélie Lucano, aux équipes techniques de CNews. Et donc, effectivement, la semaine prochaine, nous parlerons de la postérité de Padre Pio, 25 ans après sa béatification. Merci encore à tous nos invités. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. L'info continue.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.